mourir comment? Vous voulez être enterré comment?
Si vraiment les gens veulent conserver une tombe ou Dieu sait quoi, une urne ou un espèce de machin, eh bien il faut que ça serve à quelque chose, hein. Que ça provoque encore un petit peu de scandale et que les gens viennent baiser, forniquer, vraiment là, qui se sentent libres de transgresser tous les tabous en disant cette bonne femme, elle mérite qu'on arrose sa tombe de voûte.
Ainsi parlait Chrysélidis Réal. C'était en 1992 et cette petite phrase, évidemment, n'avait pas manqué de choquer les oreilles délicates, n'avait pas manqué de débaucher les oreilles, et c'était fait pour ça, et c'était bien. Hier soir, on a appris le décès de Chrysélidis Réal. C'est pas dans les habitudes de là-bas, si j'y suis, de faire des nécros, des hommages funèbres, funéraires, ni d'ouvrir des boutiques dans les cimetières. Mais il faut dire qu'on avait une affection, on a une affection toute particulière pour Chrysélidis Réal, qu'on connaissait depuis des années, depuis 1992. Nous l'avions rencontré à l'occasion de la sortie d'un de ses livres. Et on a eu envie aujourd'hui de lui rendre hommage. Parce que c'était un personnage que vous allez découvrir ou redécouvrir qui était dans un état de révolte et de rage lucide permanent et un état de générosité permanent aussi et d'intelligence et de vision du monde et de dignité très grande. On l'avait entendu il y a encore quelques semaines, en mars, ici, à France Inter, dans l'émission de Frédéric Bonneau, Charivari. Et Chrysélidis avait été très belle, très digne, comme à son habitude. Donc voilà, on va passer cette heure avec elle. Et auparavant, bien sûr, les messages que vous avez laissés sur le répondeur, le répondeur de la base où j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Dimanche, on était à la Bastille, et ce soir, Dominique Gazou de Villepin sera à Matignon, sans commentaire. Salut!
Bonjour à tout le monde, j'écoute la fin de l'émission là, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre parler des concitoyens comme ça, qu'est-ce que ça redonne de l'espoir pour continuer à lutter pour l'égalité, pour que tout le monde vive décemment, c'est franchement vraiment là, ça fait beaucoup de bien et vraiment il faut que ça continue, on va y arriver petit à petit. Il faut continuer dans cet état d'esprit, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, et l'Europe n'est pas morte, elle va vivre autrement, c'est tout, c'est ce qu'on voulait.
Alors avant les élections, on m'a dit, vous avez le choix entre le oui et le oui, d'accord? Et le soir des élections, on me dit, de toute façon, avec la mondialisation, vous avez le droit entre le libéralisme et le libéralisme. Eh bien pour moi, c'est toujours non. Voilà, à bientôt à tous, et continuez.
J'ai honte d'être parisien, je vais virer le 75 que j'ai obtenu sur ma moto et sur la voiture. La honte, 66% de oui, c'est la honte, heureusement que j'étais voté non.
Allô, bonjour à tous, je viens de regarder les informations, moi je suis vraiment écœurée quoi. On nous sert encore du Villepin, du Sarkozy, je sais plus quoi penser. À la télé, ben, c'est effrayant, les journalistes sont pratiquement tous pour le oui. Ils nous font culpabiliser en nous montrant sans arrêt Le Pen. J'en ai marre d'être taxé de facho. Moi, ce que je veux, c'est une autre Europe où chacun aurait sa place, une Europe ouverte sur le monde. Et c'est pour ça que j'ai voté nous le 29. Franchement, j'ai très mal au cœur. Je voudrais tellement autre chose pour mes enfants. Je pense que la cassure entre les riches et les pauvres va se durcir. Et malheureusement, je vois tout cela mal finir. Parce que franchement, là, on nous prend vraiment pour des connards. Alors je dis juste à Chirac de faire très attention, parce que ce que je voudrais lui expliquer, c'est que là, on est tous dans les starting blocks, quoi. On a mal au cœur, les fins de mois, c'est il y a 10 jours déjà. Donc tous les jours, on compte, on calcule pour savoir ce qu'on va manger le lendemain. Et nous, à la télé, ce qu'on voit, c'est juste des mecs qui en ont rien à foutre. Voilà. Bon, ben, je sais pas si mon message passera. parce que je suis un petit peu intimidée, voilà. Et je dis à tous les gens qui vivent ce que je vis en ce moment, quoi. C'est vraiment galère, quoi. Quand on va faire des courses pour tout, pour acheter des vêtements, pour. Mais ça, ils le voient pas, quoi. On doit galérer, quoi. C'est tout. Et les écouter avec leur gueule d'empâtée, leur costard à je sais pas combien d'euros, quoi. Enfin, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Et ce que je voudrais dire, c'est que on l'a peut-être voté non, mais on n'est pas des fachos, quoi. Moi, j'adore tout le monde. Ce que je veux, c'est que tout le monde soit heureux et qu'on pense à tout le monde, quoi. Voilà.
Bonjour. Ben voilà, la question. Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe? Ben apparemment, les Français ont répondu « Nous voulons de Villepin ». Ah bon? Moi, j'ai rien compris. Hein. Apparemment, il y a quelqu'un ici qui répond pas vraiment aux questions qu'on lui pose. Salut, ben c'était Christophe de Schirmeck en Roumanie.
Ah oui, on n'est pas sorti de l'histoire. Hein. On n'est pas sorti du oui et du non. Et on s'inquiète beaucoup, enfin au moins sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, des suites qui sont données au vote de dimanche. Un peu d'expectative. On se souvient de la fameuse affiche de mai 68, le retour à la normale, qui représentait des moutons qui rentraient dans le rang, retour à la normale. Alors là, est-ce que cette fois-ci les moutons étaient peints en noir et que ce serait on assisterait à nouveau à ce phénomène d'un retour à la normale? C'est toute la question, sauf que vous n'entendez pas la normale tous de la même façon. C'est la radio, et j'ai pas dit comment je l'écrivais. On continue avec les messages que vous avez laissés sur le répondeur au 01 56 40 37 37.
Eh bien moi j'ai un petit peu envie de réagir, parce qu'on nous rabat les oreilles avec cette histoire de vote sanction, comme si on était tous des imbéciles et qu'on n'avait pas compris qu'en fait il s'agissait de l'Europe. On sait très bien qu'on peut toujours changer le vinaigre, ça sert à rien, étant donné qu'on garde toujours les mêmes cornichons. On n'est quand même pas si bête. On a compris que la question posait sur l'Europe, et je pense que les gens ont très bien compris qu'ils ne voulaient pas de cette Europe-là, une Europe de riches, faite par les riches, pour les riches. On ne voulait pas de cette Europe du fric. Simplement, c'est un nom à l'Europe, mais pas à l'Europe elle-même, un nom à cette Europe qu'on nous prépare depuis des années. Et moi, je suis très impatiente de voir comment vont voter les autres pays. Je pense que si la France a osé dire non, il y en a d'autres qui pourraient bien suivre. Merci.
Oui, je voulais dire, j'ai pas encore entendu ça sur les ondes, mais en votant non, on a sauvé l'Europe, on a sauvé l'âme de l'Europe, et maintenant, on l'a construit. Lentement, avec des bases citoyennes. C'est positif, merde. Allez, à plus tard.
Bonjour, ici Daniel de Gérardmer, 47 rue Charles de Gaulle, 88-400 Gérardmer. Aujourd'hui, c'est le 434e jour que Madame Benedetta Berdica, réfugiée albanaise, et ses deux enfants sont maintenus en situation irrégulière par le préfet des Vosges et Monsieur de Villepin, qui refuse de lui délivrer une carte de séjour, en dépit des instructions formulées le 22 mars dernier par Monsieur Sarkozy, qui était alors ministre de l'Intérieur. Il apparaît nettement que Madame Berdica et ses enfants sont les victimes innocentes de luttes d'influence au sein de l'UMP. Tant qu'ils sont otages, nous le sommes aussi. Ne les oublions pas. Merci.
Salut Daniel, j'ai pensé à un nouvel hymne pour l'Europe. Là, je te le donne tout de suite. 3-4.
Le peuple de France a dit non à l'Europe des patrons. Le peuple de France en a marre qu'on le prenne pour un con. Mais oui, encore oui à l'Europe d'en bas, à l'Europe qui vaincra. Le peuple de France a dit non à l'Europe du pognon.
Salut, c'était Gribouille à Saint-Germain-des-Prés, en Dordogne.
Putain, c'est vachement bien. On est quand même tous des Européens.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis, Griselidis Real, 1929-2005.
Flight number 2, arriving from New York.
Je crois que l'être humain est fondamentalement angoissé devant la mort. Et tout est bon pour mettre un petit peu de distance et un peu de baume et un peu d'illusion sur ce moment de la mort qui est quand même, il faut bien le dire, un peu redouté, un peu craint et un peu inévitable. Donc, que ce soit dans l'érotisme, dans l'amour, dans la prostitution, dans la littérature, peu importe, il faut essayer d'oublier pour quelques minutes ou quelques secondes ou même quelques semaines ce moment crucial de vérité qui est la mort. Et je crois qu'on ne saura jamais aussi bien le neutraliser, l'éviter et l'adoucir qu'en vivant même une illusion et même quelque part un mensonge ou alors même quelque part une vérité.
Réal, c'était son vrai nom, Griselidis Réal, a rencontré ce moment crucial de vérité. Les mots qu'on vient d'entendre, elle les a prononcés en 1993. J'étais allé la voir à Genève pour voir dans quelle était sa vie. Je l'avais d'abord dans une première fois rencontré à Paris en 1992 à l'occasion de la sortie d'un livre. Et j'étais allé la voir ensuite à Genève. Et on avait passé de longs moments à parler, à bavarder, un peu de tout. Et elle était à la fois effectivement un écrivain, on a parlé pas mal de ses livres, un peintre aussi, ça on le sait moins. Elle avait une formation de plasticienne, elle était plasticienne, et puis une prostituée. Elle a raconté comment elle s'était prostituée et pourquoi, et ce qu'elle avait fait aussi de son état de prostituée. Elle en avait fait un combat, comme de tout le reste d'ailleurs. C'était une femme qui adorait dire qu'elle était enragée, et c'était vrai, il y avait une espèce de révolte inextinguible dans cette personne, et elle s'était battue pour le droit des prostituées en Suisse, à Genève, notamment à travers une association qu'elle avait créée, appelée Aspasie. Et Aspasie, je crois me souvenir que c'était une figure de l'Antiquité grecque, qui était une à la fois une courtisane et une intellectuelle, à la fois une pute et une femme engagée, une femme de combat et de dignité, ce qu'était Griselidis Réal. Ah, les filles qui sont au boulot là. Là il fait pas chaud hein. Il y a combien de filles qui travaillent dans le quartier là des Paquis?
Il paraît qu'il y en aurait à peu près 150. Et peut-être aussi 150 de l'autre côté. Il y aurait de 300 à 400 filles recensées à Genève. Mais il y a certainement beaucoup de clandestines de temps en temps, hein, qui font de temps en temps des occasionnelles. Quand il y a le salon de l'auto, le salon des arts ménagers, il y a plein de concurrences qui arrivent de France, dans les hôtels. Alors les filles là sont furieuses, évidemment.
Eh oui. On défend son fonds de commerce.
Ouais. Chacune défend son beefsteak.
Et quand même, ce quartier, ça tranche avec l'idée qu'on se fait de la Suisse, de Genève. C'est quand même...
Heureusement.
Hein, c'est le quartier, c'est Pigalle, c'est le quartier...
C'est le quartier populaire et voyou.
Ouais, voilà.
C'est la soupape du calvinisme.
Alors ça, Griselidis, c'est l'endroit...
Pendant des années, que j'avais 3 gosses à nourrir sur 4, je me tenais là, exactement ici. Mais il n'y avait pas ce bâtiment neuf, c'était autre chose qu'il y avait là. Il n'y avait pas tous ces buissons. Il y avait un seul arbre, un tout petit abricotier qui était là. Et moi, pendant des années, je le surveillais. Il faisait des fleurs, mais jamais de fruits. Et une année, la dernière année de tapin que j'ai faite ici, il a fait un seul abricot. Et je l'ai surveillé, surveillé, surveillé. Et je l'ai cueilli. Il était tellement dur que j'ai jamais pu le manger.
Vous dites pendant des années, c'est-à-dire...
Des années.
Combien?
Oh, en tout cas, 10 ans. Je montais là, le trottoir,
et pourquoi c'est dans...
ici, et je m'arrêtais parce que les voitures ralentissent dans le tournant, alors ils me voyaient. J'avais un joli petit manteau blanc, en fourrure blanche l'hiver, en lapin, et en lainage blanc en été, avec un chignon encore rajouté à mes cheveux, bien maquillé, tout. Alors les clients s'arrêtaient, voilà, comme cette voiture qui monte. Ils s'arrêtaient. Et j'avais un studio un peu plus loin, dans la rue, là, un peu plus haut, que j'ai loué pendant des années.
Il y a un gars qui ralentit, pense qu'on est peut-être...
Peut-être, oui. C'était un ancien couvent qui a été démoli et reconstruit pour servir de maison de retraite pour des vieilles personnes. Mais à l'époque, c'était une sorte de couvent. Et sur le parking, vous aviez des lignes blanches et c'était marqué « réservé aux ecclésiastiques ». Et moi, je me promenais la nuit, comme toutes les nuits, et j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit « Écoute, j'ai pas le temps, va pas chez toi, tu me fais quelque chose là, vite fait, dans la nature ». Il faisait une nuit noire, c'était minuit passé. J'ai dit « Bon, alors, il m'a dit « Je connais un petit coin, là ». Alors, on est entré dans une cour qui n'était pas fermée, hein. Il y avait le portail était ouvert, mais il passait personne. Et on était évidemment un peu angoissé. Moi, je me disais, si quelqu'un arrive, parce qu'il m'avait dit, tu vas me tailler une pipe, là. Il a ouvert sa baguette, justement sur cet emplacement qui était marqué réservé aux ecclésiastiques. Moi, je pense qu'il a dû prendre une revanche sur une enfance passée chez les pères, à genoux, en pénitence. Et alors là, il se vengeait parce qu'il a bel et bien éjaculé dans ma bouche. J'étais à genoux par terre. Vite fait, bien fait, sur cet emplacement qu'on a souillé, n'est-ce pas, du péché de la chair. Et ça, c'est magnifique, mais heureusement que personne n'est venu, parce qu'on aurait été mis à l'amende, et peut-être même en prison, on se voit.
In der Nacht, meine Seele wacht und lauscht. Oh Herz, hörst du, wie es klingt? In den Palmen singt und rauscht. Der Wind hat mir ein Lied erzählt von einem Glück und Tag war schön. Er weiß, was meinem Herzen fehlt, für wen es schlägt und klingt. Come, come,
Roger, 6, vieillard lubrique, chauve, garde son slip, le plus longtemps possible, minaude, pelote, baise, 80 francs. C'est une petite note qui figurait sur le carnet de Griselidis Réal, dans le cadre de son activité de prostituée à Genève. Chacun de ses clients était ainsi répertorié, des notes extrêmement lapidaires, mais qui lui permettaient de s'y retrouver récemment. Le livre de ses carnets a été republié et ça a été l'occasion d'une découverte, d'une redécouverte de cette femme au destin singulier et au dessin enragé qui nous a quitté hier. Là, cette rencontre, c'était en novembre 93. On s'était vu à Genève, la ville où elle vivait.
De toute façon, Genève n'est pas perdue parce que tant qu'il y aura des marginaux, des fous, des putes, et même d'ailleurs des clients courageux qui viendront nous trouver pour se révolter contre leur éducation restrictive, judéo-chrétienne, ridicule et castratrice, eh bien, rien n'est perdu à Genève. Et ce qui ferait le charme de Genève, précisément, c'est qu'ici, les gens en ont marre peut-être d'étouffer dans des sortes de carcans inutiles et périmés. Alors, ils ont envie de respirer, ils ont envie de faire exploser ces carcans. Et ça, cette explosion n'est pas du tout terminée. Elle a commencé, n'est pas terminée. Hein. Et que ça soit dans le domaine intellectuel, dans le domaine du cul, dans le domaine de la philosophie, de la psychologie, et même de la gastronomie, de n'importe quoi, de l'alcoolisme, de la littérature, tout explose continuellement. Ce sont des petites explosions en chaîne. C'est une sorte de révolution nucléaire invisible et beaucoup moins nuisible que les centrales nucléaires que nous, d'ailleurs, nous refusons maintenant. Nous refusons. Nous devenons nos propres petites centrales invisibles, secrète et dangereuse.
La chambre où elle travaillait dans le quartier des Paquis à Genève, où elle travaillait, c'est-à-dire où elle amenait ses clients, elle avait des clients réguliers, elle avait un faible pour les faibles, c'est-à-dire pour des travailleurs immigrés, un peu seuls. Toutes sortes de clients qu'elle détestait ou qu'elle respectait ou qu'elle aimait d'affection, des relations humaines s'étaient tissées. Elle a raconté tout ça dans ses livres. Et son appartement, son studio, était aussi un centre de documentation. Elle en avait fait un centre de documentation sur la prostitution et elle en avait fait le lieu aussi de son combat. Et on connaît la grande controverse sur la prostitution depuis très longtemps. Les uns sont partisans de l'abolition, de la disparition, d'une lutte pour la disparition totale de la prostitution, et d'autres sont pour une législation qui existe, des lois, et certains sont pour les deux, d'abord les lois et ensuite la prohibition. Tout ça est une controverse que l'on connaît, qu'on a d'ailleurs abordé, on en a parlé à plusieurs reprises dans nos émissions. C'est une vieille polémique en France. On connaît la réponse qui a été faite en toute hypocrisie, puisqu'on sait qu'au plan électoral, il est plus payant de faire de la répression qu'autre chose. Donc on s'en tient à cette attitude-là. On l'a vu récemment avec les lois sur la sécurité intérieure promulguées par Nicolas Sarkozy, qui va revenir à l'intérieur et qui va pouvoir appliquer encore avec plus d'efficacité ces lois. C'était le grand combat de Chrysélidis Réal, elle en tirait une certaine fierté et elle en parlait. On est à Genève en novembre 1993.
Il y a des années de ça, il y a à peu près 30 ans, la police nous persécutait. On nous suivait dans la rue, on écoutait les téléphones. On interrogeait les chauffeurs de taxi qui étaient évidemment indicateurs professionnels et on nous ramassait nos gosses et on nous indiquait aux impôts pour évidemment pour augmenter les sommes qu'on était censé verser. Alors c'était pas du tout comme aujourd'hui où on a beaucoup plus de liberté et de respect même de la part des flics, ce qui paraît anormal, mais enfin ils se sont un petit peu mis au pas, d'ailleurs dépassés par les événements parce qu'il y a beaucoup trop de monde à surveiller. Il ne faut pas oublier qu'à Genève, en 1974, il y a eu au tribunal un procès et les prostituées ont payé des avocats, trois avocats, sauf erreur, pour arriver à obtenir la permission, l'autorisation de travailler jour et nuit dans les rues. Et on les a reconnues comme exerçant une profession libérale dans le cadre du commerce et de l'industrie. Et malheureusement, les Françaises n'ont jamais réussi à s'organiser suffisamment nombreuses et suffisamment longtemps, parce qu'il faut vraiment de l'obstination, il faut vraiment de la volonté, il faut aussi sacrifier du temps, il faut sacrifier de l'argent. Elles y seraient peut-être arrivées avec des avocats, comme nous, pourquoi pas, arriver à se faire respecter comme des travailleuses, des artisanes, des travailleuses dans une profession libérale, indépendante, payant des impôts comme tout le monde, et finalement se faisant respecter comme des travailleuses, même un peu spéciales. Non seulement elles ont gagné au tribunal fédéral, mais après des années et des années de lutte et d'obstination, nous avons fini par obtenir ce qui n'était jamais arrivé avant, c'est que nous avons le certificat de bonne vie et mœurs. Parce qu'autrefois, les prostituées étaient considérées dans l'inconduite notoire comme des femmes de mauvaise vie, comme les toxicomanes ou les alcooliques ou des repris de justice, c'est-à-dire n'ayant pas droit à un certificat de bonne vie et bonne mœurs. Et maintenant, nous l'avons même en étant en activité sur les trottoirs, dans les rues, dans nos studios, dans les salons de massage. Nous avons ce fameux certificat de bonne vie et mœurs qui nous met, en tout cas sur le papier, à égalité avec toutes les bourgeoises dites honnêtes, c'est-à-dire les secrétaires, les femmes mariées, même des fonctionnaires à l'État, des infirmières, des institutrices, même des banquières, enfin tout ce qui travaille dans les milieux soi-disant honnêtes.
Nous habitions en face d'elle dans le quartier Saint-Louis. Elle habitait, je me rappelle, aux environs de minuit. Moi, mes cousins, nous la regardions en silence à travers les jalousies. Adossée au magasin, elle fumait avec élégance. Nous apprenions nos poésies passionnément, nous y pensions à la paix. Point de suspension. Qu'elle était bien, qu'elle était bien, la putain. Posée comme une contrebasse dans les bras d'un artiste, elle avait l'air de faire des passes dans une chanson réaliste. Moi, mes cousins en pyjama au cinéma, nous l'avions prise pour femme. Son parfum de violette, quand on entr'ouvrait la fenêtre, nous descendait au fond de l'âme. Passionnément, nous y pensions à la paix, point de suspension. qu'elle était bien, qu'elle était bien. La putain.
Ma mère nous a fait des confidences sur sa vie amoureuse. Elle nous a dit, voilà, avant d'être vraiment heureuse avec votre père, moi, j'ai un peu erré comme jeune fille. J'allais d'un ami à l'autre, d'un amant à l'autre. Je trouvais pas mon bonheur. J'étais bloquée quelque part. Alors, ça faisait scandale à l'époque. Non, hein. Alors, ma mère s'était fait traiter par des vieilles rombières très bourgeoises. Elle s'était fait traiter de putain. Mais la malheureuse, elle faisait l'amour, mais elle se faisait pas payer. C'était pour tâcher de trouver le bonheur. Elle avait changé de temps en temps d'amant. Alors moi, je me suis dit qu'un jour, je vengerais ma mère. Puisqu'on l'avait traitée de putain quand elle ne l'avait jamais été, eh bien moi, je le serais pour de vrai. Et je triompherais, justement, de ce vocabulaire méprisant. Et le mot putain deviendrait un titre de gloire. C'est ça que je voulais, moi. J'ai vengé ma mère et j'ai vengé toutes les putains du monde. Et je suis pas la seule.
Ainsi parlait Griselidis Réal qui nous a quittés hier. Et voilà, on voit une femme effectivement de combat. C'est pas seulement une tristesse. C'est aussi une jubilation. Mais oui, pourquoi pas. Une jubilation près d'entendre ces paroles, ces traces d'un combat qui n'a jamais cessé. Elle disait, je ne m'arrêterai pas, j'irai jusqu'au bout, je suis enragé. Et évidemment, c'est des mots très très stimulants qu'il faut garder, je crois, de cette femme, même si bien sûr, comme tous, elle avait ses blessures secrètes, qu'elle ne dévoilait pas, évidemment, comme souvent dans chez ces gens-là, je mets ça évidemment avec des guillemets, on rencontre beaucoup de pudeur, on se heurte même à beaucoup de pudeur, et souvent quand les choses sont très exhibées, comme ça c'est un moyen de cacher d'autres choses qu'on veut préserver. C'est le sentiment qu'elle donnait presque en permanence, par exemple lorsqu'elle parlait avec Jean-Luc Hennig, qui lui avait inspiré un livre, enfin qui avait été son directeur de collection pour un livre qu'elle avait publié en 1992 et avec qui elle parlait de ses maris.
Combien d'hommes dans votre vie vous ont proposé le mariage?
Alors, avant ce monsieur, enfin ce mystificateur qui se trouve là, assis à côté de moi, j'ai eu la première proposition de mariage avec, effectivement, mon unique mari, que j'ai épousé quand j'avais 20 ans. C'est-à-dire, on nous a forcés à nous marier parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas coucher avec un garçon sans être marié. C'était une époque extrêmement puritaine et rigoriste. Vous comprenez? Alors, je me suis mariée. D'ailleurs, j'étais follement amoureuse. Mon mari aussi, mais malheureusement, ça n'a pas marché à cause de l'éducation, la morale judéo-chrétienne, le manque de connaissances en sexualité. Enfin, bref, ça a foiré. Et ensuite, j'ai eu une fois un monsieur qui était à l'époque hospitalisé dans une clinique psychiatrique de Genève qui s'appelle Bel Air, qui m'a proposé le mariage. Et je suis allée à la mairie des Eaux Vives, parce que c'est là qu'il faut aller, et j'ai dit, voilà, j'aimerais signer une promesse de mariage. On m'a dit, bon, d'accord, alors quel est le nom de votre futur? J'ai donné le nom, c'était un Américain noir, son domicile, clinique psychiatrique de Bel Air. On m'a dit, ce n'est pas valable, parce que ce n'est pas un domicile normal. Donc vous ne pouvez pas signer... On ne peut pas enregistrer une promesse de mariage avec un domicile pareil. Alors là, ça n'a pas marché. Deuxièmement, j'ai voulu, enfin, le fameux berbère en question, là, dont il est question dans le
texte. Il s'agissait d'histoire d'amour ou de gens que vous vouliez sauver, parce...
Enfin, vous vouliez aider. Un grand amour qui était basé aussi sur un sauvetage, bien entendu. Alors le berbère, lui, il était en prison, d'abord à Berne et ensuite à Bochu, ce qui est dans le canton de Vaud. Et là... Aussi, je suis allée partout à plusieurs mairies différentes et chaque fois, on m'a dit, madame, c'est impossible, la prison, ce n'est pas un domicile officiel. Ce n'est pas reconnu comme domicile, vous ne pouvez pas épouser ce monsieur. Alors, du coup, je ne me suis plus remariée. Vous comprenez? Et encore, j'ai eu une proposition de mariage d'un autre garçon complètement fou qui a voulu m'assassiner par la suite. Il s'était rasé la tête, ce qui le faisait ressembler à un monstre, et il m'attendait dans un porche obscur, et il m'a sauté dessus en me disant « je vais te tuer ». Alors moi j'ai pris peur, mais enfin je suis toujours là, remarquez. Et ce pauvre garçon est mort d'ailleurs, lui, du sida par la suite, parce qu'il a commencé à se droguer, à s'intoxiquer, et son organisme a flanché. Non, j'ai eu des propositions de mariage étranges, jamais tout à fait normales.
Je crois que savoir plus de choses sur la nature humaine, comme c'est votre cas, est-ce que tu crois que ça fait que la bougie de ta vie s'use plus vite? Tu penses ça, Grésilidis?
Moi, je pense au contraire que ce sont comme des vitamines, que ça nous redonne une lucidité qui nous donne une énergie épouvantable, parce qu'on ne veut pas se laisser piéger par des illusions. On veut connaître la vérité en face. On veut la dépasser.
Ça, c'est calviniste, alors. Hein, c'est bien protestant, ça.
Non.
Humaniste. Hein, c'est vraiment... On est bien à Genève, là.
Non, mais moi, je trouve que c'est bouleversant de voir la vérité humaine en face, de ne pas la travestir, la masquer, la cacher, la nier, l'aliéner. Il faut voir la vérité des choses en face. Et c'est à ce moment-là qu'il y a comme une lumière qui se dégage. Et je pense que le véritable amour, ça serait justement de sortir de tous ces pièges et de se dire, si on aime quelqu'un, ce n'est pas de faire des concessions ou d'être victime ou bourreau. L'amour, ça peut être quelque chose de magnifique à condition qu'on sache exactement qui est l'autre, qui on est soi-même, et que l'amour dépasse la chair, va jusqu'à l'esprit, et peut-être encore plus loin que ça. Ça va jusque dans une sorte d'éternité, même limitée, mais ça doit être très, très, très profond et très vaste.
Précisément, quel est votre combat? Qu'est-ce qui vous indigne aujourd'hui?
Bon, vu que je suis moi-même prostituée professionnelle, je n'admets pas qu'on méprise toutes ces femmes, qu'on leur fasse la vie dure, qu'on essaye de les recycler à tout prix, sous prétexte d'une morale caduque et ridicule qui veut que ce soit des femmes de mauvaise vie, alors qu'elles ne font que du bien. Elles sont très utiles à la société et je ne vois pas pourquoi on les empêcherait d'exister et de travailler, et d'élever des enfants, d'avoir une vie privée, d'avoir une vie normale. Et enfin, je ne vois pas pourquoi on ne les respecte pas, on ne leur fout pas la paix. Tout ça parce que ça rapporte à la police, à la politique, au gouvernement, et j'en passe. Hein. Alors vous comprenez, là, il y a une malhonnêteté, une hypocrisie inacceptable. Donc là, ça fait déjà bientôt 17 ans que je me bats comme une folle. D'ailleurs, on me traite d'illuminée. Dieu merci, c'est un compliment. Je n'arrêterai pas.
Je n'arrêterai pas, disait Grésilidis Réal en 1992, et il y a quelques semaines, le 31 mars 2005, elle était à France Inter, elle était au micro de Charivari, de Frédéric Bonneau, et elle ne s'était pas arrêtée.
Je tiens à le dire, la vie vaut la peine d'être vécue, même si c'est pas tout à fait comme avant. Il y a certains traitements qui sont très pénibles à supporter, mais de temps en temps, on a des rémissions. Et surtout, on peut s'occuper la tête, vous comprenez? Même si le corps ne suit pas tout à fait, vous pouvez encore lire, vous pouvez vous intéresser à la radio, vous pouvez écrire, vous pouvez écouter de la musique, cultiver des fleurs, cultivez vos amis. Enfin, rien n'est perdu. Simplement, c'est différent.
S'il fallait une figure, une sculpture même, pourquoi pas, pour représenter l'expression « le combat continu », eh ben, on pourrait tout à fait s'inspirer de la silhouette et du visage de Griselidis Real.
Il paraît qu'on a envoyé dernièrement une pétition à des députés pour faire supprimer cet article 50 de la loi sur la sécurité, pour enlever cette répression sur le racolage passif qui s'exerce dans certains quartiers. Écoutez, parmi les députés politiques, on ne va pas nous faire croire qu'il n'y en a aucun qui aille de temps en temps pour un petit moment de plaisir ou de soulagement sexuel chez une professionnelle. On ne va pas nous faire croire ça. Il y a eu des grands ecclésiastiques, tout le monde le sait, il y en a même un qui est mort chez une prostituée. Moi, j'avais une vieille amie qui est morte, qui connaissait même la personne chez laquelle ça s'était passé. Donc, vous savez, il y a une hypocrisie générale qui est absolument sordide. Et alors, dernièrement, j'ai encore lu des articles qu'on m'envoie tout le temps, et il paraît qu'un policier aurait dit « Ah, mais la loi Sarkozy, elle s'occupe pas de savoir si vous êtes française ou étrangère. C'est la loi pour la même pour tout le monde. » Alors, vous comprenez, ces femmes, elles ont, je crois, jusqu'à 3 750 euros d'amende, et puis on les menace de 2 mois de prison, et on ne les laisse simplement plus gagner leur vie. Alors que la plupart sont là depuis 30 ans, elles ont élevé leurs gosses, elles s'occupent de leurs petits-enfants, de leur famille, elles ne font de mal à personne, elles ont leurs habitués, qui les apprécient infiniment, et qu'est-ce qu'on va leur chercher, Noise ?
Griselidis Real était venue à Paris pour la sortie de son livre sur ses notes prises sur ses clients. Il n'y avait absolument pas de littérature autour de ça. Au contraire, j'ai fait allusion tout à l'heure à ces notes très très brèves qu'elle prenait sur les silhouettes du client, sur ses désirs, ses obsessions, ses fantasmes, et puis le tarif. C'était très important. Et ces quelques lignes, évidemment, retrouvées, mises les unes derrière les autres, donnent de quoi ? De la condition humaine, une image particulièrement tranchante et vive et violente.
C'est très simple, n'est-ce pas ? Quand quelqu'un vous téléphone, vous ne pouvez pas toujours reconnaître exactement la personne. Vous entendez la voix, vous ne voyez pas le visage. Et moi, je devais feuilleter à toute vitesse pour voir s'il y avait une demi-douzaine de Pierre, de Paul, de Jacques, ou seulement 2 ou 3. Et je situais exactement ce qu'il fallait faire comme manœuvre, comme travail, comme technique. Et en voyant apparaître le monsieur, je savais à qui j'avais affaire pour ne pas me tromper sur les manipulations délicates à exécuter, et d'autre part, ne pas me tromper sur les tarifs, parce que tous ne payaient pas exactement, ils payaient à peu près selon leur disponibilité et le travail exécuté. Alors il fallait être très précise, autrement je pouvais me tromper, il fallait tout recommencer à zéro, le monsieur pouvait être fâché, mécontent, ne plus revenir, en se disant, mais enfin, c'est pas comme d'habitude, qu'est-ce qu'elle me fait là ? Il y avait toute une clientèle qui venait simplement taper à la porte à n'importe quelle heure, souvent dans des états crépusculaires. Et c'était de braves ouvriers, immigrés, de toute race, des gens qui ne téléphonaient pas. Moi, ce répertoire était consacré vraiment à ceux qui téléphonaient. J'ai dû tout relire, les épreuves, évidemment, parce que les ordinateurs font souvent des gaffes. Alors, j'étais même surprise de le relire. Et je me suis dit, mon Dieu, quand je pense que je devais faire tout ça. Mais ça m'a beaucoup émue parce que je revoyais l'être humain qui se cachait derrière la petite rubrique. Et ça, on ne peut pas oublier, voyez-vous. Les contacts humains sont tellement souvent émouvants, bouleversants, et originaux aussi, tout à fait inédits. Et ça, ça fait toute une vie. Moi, pendant 30 ans, j'ai fonctionné comme ça. Et j'avais la passion de la découverte, souvent. C'était pas toujours facile, hein, loin de là. Mais c'est tout de même très prenant d'avoir affaire à l'être humain, tout nu, devant vous, qui se livre à vous, qui vous fait confiance, et lui rendre la joie de vivre, le soulager de ses tensions, de ses angoisses, combler un petit peu sa timidité, ses désirs, ses rêves. Voyez-vous, c'est très gratifiant. Et certains me remerciaient presque les larmes aux yeux en m'embrassant sur les joues, en me disant « Je vais me sentir bien pour toute la semaine grâce à toi. Je te remercie. À la prochaine fois. »
Et le message, c'est quoi ?
Le message, c'est l'amour envers et contre tout, désintéressé, absolu, définitif, mystérieux, cruel, insensé, réel.
Lave qui neige ou qu'il vente, aussitôt que la nuit descend, on nous voit passer provocante, offrant des bonheurs aux passants. Ainsi que toutes les femmes, nous avons une âme, un cœur pour chérir. Pourtant, nul ne s'en inquiète, nous ne sommes faites que pour le plaisir. Les hommes nous aiment pas pour nous, mais pour eux, ce sont tous les mêmes, des blasés, des vicieux, quand l'instinct les guide. Que cherche-t-il en nous? Une étreinte rapide et c'est tout. Quand de nos caresses ils ont payé le prix, bien vite ils nous laissent d'un air plein de mépris. L'amour, ce problème, ça compte pour bien peu. Si les hommes nous aiment, c'est pour eux. On devient triste, on devient folle. Et puis tout à coup, un beau jour, lassé de vivre toujours seul, on écoute des mots d'amour. La vie vous semble idéale, mais hélas le mal devient exigeant. Et bientôt l'on se rend compte, pour lui ce qui compte ce n'est que l'argent. Les hommes nous aiment pas pour nous, mais pour eux, ce sont tous les mêmes et cachent bien leur jeu. De façon adroite, ils se font tout d'abord, et puis ils nous exploitent sans remords. Chez nous, hélas, on encaisse des injures et des coups. L'amour, ce problème, ça compte pour bien peu. Si les hommes nous aiment, c'est pour
alors, je rappelle les livres de Griselidis Réal qui ont été réédités ces temps derniers. Carnet de bal d'une courtisane, suivi de petites chroniques des courtisanes et autres textes aux éditions verticales et chez le même éditeur. Le noir est une couleur de Griselidis Réal. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter. À la rubrique émission là-bas, si j'y suis, le site de l'association Aspasie, c'est www.aspasie.ch. Technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos. L'équipe de la base, si j'y suis, c'est Antoine Chao, Yann Chouquet, Pascal Pascariello et Christophe Imbert. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Le mail, daniel.mermet@radiofrance.com. Et dans un instant, dans une minute, vous retrouvez Frédéric Bonneau et son charivari. On se retrouve, nous, demain à 17h pour la base, si j'y suis. Salut!